des sept merveilles du monde antique. Seules les pyramides de Khéops ont traversé les temps et peuvent toujours être admirées aujourd'hui. Pourtant, l'existence d'une de ces sept merveilles ne fut jamais totalement certaine et interroge encore les spécialistes. Ce sont les jardins suspendus de Babylone, qui continuent à alimenter les plus grands fantasmes.
Certains archéologues pensent que les jardins étaient plutôt situés dans la cité assyrienne de Ninive, et qu'il y aurait eu une confusion entre les deux villes de la part des auteurs grecs qui en font la description.
En effet, merci beaucoup pour cette précision. Alors Maestro, de la série Il était une fois l'homme, que vous connaissez sans doute, nous accompagnera tout au long de cet épisode. Bienvenue sur ma chaîne, Maestro.
Avec plaisir.
Mais Babylone ne vaut pas que pour ses jardins suspendus. La ville, qui a traversé trois millénaires, est LA cité mythique des premiers temps de l'humanité. Revenons donc sur la riche histoire de Babylone, et demandons-nous pourquoi, après tant de péripéties, elle est devenue le symbole de la décadence urbaine. Il y a 6000 ans, la Mésopotamie n'avait pas le même visage qu'aujourd'hui. Au niveau du golfe Persique, la mer est plus avancée et recouvre les terres sur environ 200 km. C'est une terre fertile grâce à ses deux fleuves nourriciers, le Tigre et l'Euphrate. Ils prennent leur source dans les monts d'Arménie et traversent le Moyen-Orient avant de se jeter dans le golfe. Des peuples s'installent autour de ces deux grands cours d'eau, développant des techniques d'irrigation avancées en perçant des canaux, en construisant des digues et en drainant le surplus d'eau du sud, du fait de l'augmentation du débit du Tigre gonflé par les rivières venant des monts Zagros. Les inondations sont plus à craindre que les sécheresses. De grandes innovations bouleversent le monde à la fin du 3e millénaire avant notre ère, notamment la roue et l'écriture, qui favorisent les échanges commerciaux et la mobilité des hommes. Deux grands groupes ethniques composent alors la Mésopotamie, les Sumériens au sud et les Akkadiens au nord. Les premières grandes cités-états apparaissent, comme Ur, Uruk, Lagas ou Kis. En accumulant les richesses en un seul point, la prospérité de certaines villes aiguise les appétits de voisins moins pourvus. La guerre et la violence deviennent des pratiques courantes. Afin de se protéger, les premières murailles sont érigées. En moins 2334, depuis le pays d'Akkad, un roi sémite nommé Sargon conquiert le pays de Sumer. Il opère par une série d'attaques éclairs sur les grandes cités, comme à Uruk, où les murailles sont détruites. Il pousse ses ambitions territoriales jusqu'à l'est, où le royaume d'Elam tombe sous son protectorat, puis conquiert le nord et va même aller jusqu'en Méditerranée. La Mésopotamie est pour la première fois unifiée sous un même régime. Le premier empire de l'histoire est né. La langue akkadienne s'impose, même si le sumérien restera la langue des lettrés pendant des siècles. L'histoire de l'empire de Sargon est un condensé du destin qui attend les peuples mésopotamiens. Conquête et expansion rapide, association ou écrasement des cités soumises, période de prospérité plus ou moins longue, puis le déclin, révolte, menaces frontalières, troubles politiques et en général, le coup de grâce par une invasion inattendue. Au début du deuxième millénaire avant notre ère, une petite bourgade sur l'Euphrate est fondée. Elle prend le nom de Babylone, signifiant « porte des dieux », indiquant immédiatement la prédestination spirituelle et religieuse de la cité. De taille modeste, elle va connaître un développement rapide. Un peuple nomade, les Amorites, s'installe et en fait sa capitale vers moins 1895. Les cités alentours se soumettent par la conquête, et une politique d'alliance matrimoniale avec les grandes puissances lointaines assure une certaine stabilité. En un siècle, les frontières sont repoussées jusqu'au Tigre. Temples, canaux et fortifications sont érigés. Et vers moins 1792, un grand roi va faire entrer la cité dans l'éternité. Hammurabi, le sixième roi de Babylone, hérite d'un royaume somme toute assez modeste comparé à ses puissants voisins. Il va, au gré des alliances, éliminer tous ses rivaux. Hammurabi s'associe avec le royaume de Larsa pour écraser les Élamites bien trop belliqueux. Puis il trahit son allié en annexant son territoire après un siège de 2 ans, nécessitant 40 000 hommes. Le royaume de Mari lui envoie 2 000 hommes à cette fin, et sans doute pour le remercier, Hammurabi l'attaque, pille la cité et détruit ses murailles. il continue son expansion et défait le royaume de Haute Mésopotamie. En 10 ans, le roi législateur a étendu le royaume de Babylonie à un niveau inédit. Il faut désormais compter sur cette nouvelle puissance. Au-delà de ses conquêtes, Hammurabi est surtout connu pour être un roi bâtisseur et législateur. Pendant les 43 ans de son règne, Babylone continue son développement urbain par le percement de canaux et la construction de nouveaux quartiers. Elle se dote de temples magnifiques, que l'on nomme ziggourat, à la gloire du dieu Marduk, divinité tutélaire de la ville, dont le culte va s'étendre à toute la Mésopotamie. L'art, la littérature, la médecine, les mathématiques connaissent un extraordinaire développement. Babylone exerce à partir de cette période un attrait religieux et intellectuel qui perdurera pendant des siècles. Mais la grande œuvre d'Hammurabi, celle qui perdure, est son code de loi. Deux précisions. Il est souvent présenté comme le premier code juridique de l'histoire, ce qui est faux. Le code d'Ur-Nammu, découvert dans les vestiges d'Ur en 1952, est antérieur de 300 ans. Ensuite, il ne s'agit pas réellement d'un code, mais plutôt d'une compilation de plus de 300 décisions de justice. C'est en fait un recueil de jurisprudence. Beaucoup de sentences reposent sur la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Voici quelques exemples présentés par Maestro.
Si sans raison, un homme en maudit un autre, il sera mis à mort. Il existe 3 classes d'hommes. L'esclave. Le mesquin. Et l'homme, enfin. Si un homme a des dettes, il pourra prêter sa femme en remboursement. Mais pour 3 ans seulement. La maîtresse de maison négligente sera jetée au fleuve. Si on regarde la femme d'un homme, elle devra d'elle-même se jeter au fleuve. Si une femme est surprise en état d'adultère, elle sera attachée à son amant et tous deux seront jetés au fleuve.
Comme vous pouvez le voir, le code touche tous les aspects du quotidien et donne un bon aperçu de la vie chez les Babyloniens. Mais comme souvent dans la grande histoire de la Mésopotamie, une dynastie chasse l'autre. En quelques générations, révoltes et invasions vont affaiblir les Amorites. La dynastie s'éteint, et ce sont les Kassites qui s'installent à Babylone. Le prestige de la cité ne fait que progresser durant cette dynastie Kassite, qui respecte les traditions. Babylone continue d'être le centre intellectuel et religieux mésopotamien. La ville rayonne dans tout le Moyen-Orient. Ses souverains préfèrent la diplomatie à la guerre, ce qui favorise les échanges commerciaux, qui sont encore majoritairement basés sur le troc. La grande menace qui va déstabiliser la région pendant 700 ans vient du nord. Une cité plutôt modeste jusqu'à présent devient progressivement une grande puissance politique. Assur, qui va donner son nom aux Assyriens. Leurs techniques de guerre sont modernes. Ils combinent infanterie et cavalerie, chars de guerre et machines de siège. Organisation et célérité sont les maîtres mots de cette armée furieuse. Les temps se troublent. De -1274 à -626, Babylone, l'Élam et l'Assyrie vont alterner guerre, alliance ou protectorat. À ces conflits constants s'ajoutent des incursions de tribus nomades, chaldéens et araméens notamment, qui vont être peu à peu absorbés dans ces empires. Les rois assyriens rêvent de soumettre Babylone, et ils dominent effectivement la cité pendant un siècle, de 728 à 626, époque qui correspond à l'âge d'or de l'empire assyrien. Le chaos étreint la cité mythique. Pro-assyriens et pro-babyloniens s'affrontent régulièrement dans un climat de guerre civile. En 689, le fils du roi assyrien Sennachérib est assassiné dans Babylone. Le père, énervé, ordonne le pillage et la destruction de la ville, et le transfert de la statue du dieu Marduk en Assyrie. Sennachérib est assassiné à son tour par des fils rebelles, qui vont ensuite s'enfuir. C'est l'un des fils non parricides, Assaradon, qui ravit le trône. Lassé des massacres perpétuels, il décide de se réconcilier avec les Babyloniens. Il reconstruit les grands temples et restitue les terres aux anciens propriétaires. Surtout, il rend la statue du dieu Marduk, symbole d'une volonté pacificatrice. Mais ce grand roi est surtout connu pour son expédition en Égypte et sa victoire à Memphis. À sa mort, il scinde le trône. Babylone pour l'aîné et l'Assyrie pour le second, Assurbanipal. Une guerre éclate entre les deux frères. Assurbanipal assiège Babylone en -650. Les chroniques témoignent d'une brutalité inédite qui dure 2 ans. Les assiégés dévorent leurs enfants et boivent leur sang. Le roi de Babylone, acculé, se suicide en incendiant son palais. Assurbanipal entre dans une ville où les cadavres bloquent les rues. Il exécute les dignitaires survivants à la façon assyrienne. Tête coupée, écorchement puis drapage de la ville avec la peau des vaincus. Pourtant, il ne détruit pas la cité et place un roi fantoche assisté d'un gouverneur à la tête de Babylone. Il s'abat ensuite sur l'Élam, qu'il détruit de fond en comble, et va sans le savoir supprimer un état tampon qui laisse le champ libre à de nouveaux venus, les Perses. Au-delà des massacres, la légende noire d'Assurbanipal nous provient des Grecs. Ils le nomment Sardanapal, qui incarne à la perfection la vie dissolue. Ivresse, débauche et luxure auraient rythmé sa vie. En réalité, Assurbanipal est un roi lettré qui maîtrise l'acadien et le sumérien, les mathématiques et les arts. Il fait construire une bibliothèque à Ninive, qui est aujourd'hui la plus grande source de textes mésopotamiens retrouvés. Le plus vieux roman de l'histoire, l'épopée de Gilgamesh, y fut découvert.
Une histoire pleine d'aventures que je vous conseille à tous. Mais l'Empire assyrien ne survivra pas à la mort d'Assurbanipal, le gouverneur de Babylone, qui agit pour le compte des rois assyriens, se rebelle.
Ce gouverneur, Nabopolassar, d'origine chaldéenne, écrasera le fils d'Assurbanipal et abattra l'Empire assyrien en s'associant au peuple mède, qui connaît un essor remarquable. Les deux armées coalisées prennent Ninive en -612. Mais les résistances sont encore nombreuses. Les Assyriens se réfugient à l'ouest, et leurs alliés égyptiens leur portent secours. Le fils de Nabopolassar, Nabucodonosor, conduit les armées babyloniennes. En -605, la bataille de Carchemish met fin à tout espoir de renaissance assyrienne et réduit considérablement l'influence des Égyptiens. Le jeune prince devient roi, sous le nom de Nabucodonosor II, et va porter au firmament la gloire de Babylone. Territorialement, il s'étend vers l'ouest, et passe la majeure partie de son règne à mater des rébellions en Judée. Il assiégera par 2 fois Jérusalem, détruira le temple de Salomon, et départera une immense partie de la population hébreuse à Babylone, événement considéré comme le point de départ de la diaspora juive. L'image légendaire de Babylone est surtout le fait de l'intense activité de bâtisseur de Nabucodonosor. Il entoure la cité d'un système de 6 enceintes, dont une muraille extérieure de plus de 70 km. La hauteur des murailles serait supérieure à 20 mètres. L'utilisation de la brique émaillée bleue, porteuse de motifs en relief, ornée de lions ou de dragons, est indissociable de l'image de Babylone. Palais et temple structurent l'urbanisme, quadrillé avec une longue voie processionnelle, qui aboutit à la porte nord d'Ishtar. Une ziggourate exceptionnellement haute est édifiée au cœur du sanctuaire de l'Ezagil, en l'honneur du dieu Marduk. C'est d'ailleurs ce bâtiment qui aurait inspiré le mythe de la tour de Babel. On attribue la possible construction des jardins suspendus à ce roi bâtisseur. Nabucodonosor construit de nouveaux canaux et soutient la production agricole. Place commerciale, centre religieux, capitale administrative, Babylone atteint alors son apogée.
À la mort de Nabucodonosor, une crise de succession éclate, puis des révoltes qui tournent à la guerre civile, tandis que la situation économique se détériore. Tous ces troubles vont profiter à un roi ambitieux qui va changer le cours de l'histoire.
Cyrus II, roi d'origine perse, de la dynastie Achéménide, soumet les puissants Mèdes en -553. S'ensuit une série de victoires impressionnantes, qui le conduisent devant le souverain de Babylone, Nabonide. Son armée va jusqu'à détourner le cours de l'Euphrate pour qu'une petite troupe pénètre dans la cité et en ouvre les portes. Le 12 octobre 539, Cyrus le Grand entre dans la ville légendaire, qui ne sera plus jamais indépendante de son histoire. Elle devient une ville impériale de l'Empire Achéménide, plus connue sous le nom d'Empire Perse. La cité connaît pendant 2 siècles une intense activité économique et culturelle. Son prestige est tel qu'elle s'enveloppe de nombreux fantasmes pour les Occidentaux. Un jeune conquérant venu de Macédoine écrase Darius III lors de la bataille de Gaugamel. Babylone se rend à Alexandre le Grand, qui souhaite en faire sa capitale. Il réinstaure le culte de Marduk et commence des travaux, mais sa mort prématurée à 33 ans replonge la ville dans le chaos. Dans les conflits qui opposent les généraux d'Alexandre, les Diadoques, l'épisode dit de la guerre babylonienne permet à Séleucos de ravir la cité mythique. Babylone est toujours respectée, mais l'empire séleucide entre assez rapidement dans une phase de déclin qui profite aux Parthes. Un mouvement de dépeuplement s'engage alors. Les Romains, qui l'occupent brièvement sous Trajan, témoignent d'une ville encore active commercialement. L'invasion sassanide au IIIe siècle de notre ère marque la fin d'une cité qui a vécu 3 millénaires. Aujourd'hui en Irak, les ruines sont dans un état de dégradation avancée, entre les restaurations peu scrupuleuses lancées par Saddam Hussein et les destructions de l'armée américaine, qui a eu la lumineuse idée d'installer une base militaire sur les vestiges de Babylone durant la Seconde Guerre en Irak.
Mais alors, pourquoi Babylone, ville prestigieuse que ses contemporains admiraient, est aujourd'hui associée à l'orgueil, à la débauche ?
Si la grande cité mésopotamienne est aussi connue aujourd'hui, au-delà de sa riche histoire, qui a vu défiler tant de peuples et de grands rois, c'est tout d'abord pour l'émerveillement qu'elle suscita chez certains des premiers historiens. Hérodote, Dion Cassius, Strabon ou Diodore de Sicile évoquent la ville comme une merveille, la plus belle des cités. Mais c'est la religion qui associe Babylone à la décadence des hommes. L'épisode biblique de la tour de Babel, où l'un des descendants de Noé décide de construire une tour pour atteindre le ciel, et donc Dieu, provoque une punition divine. La confusion est semée parmi les hommes, qui désormais parlent des langues différentes. Dans l'Apocalypse selon saint Jean, Babylone représente la décadence et la société mercantile. Elle est la grande prostituée, qui se couche devant les rois pour la richesse. Les protestants l'assimilent à Rome pervertie par l'argent pendant la Réforme. L'image de la ville, attirante et repoussante, reste largement négative de nos jours. Certains associent désormais Babylone aux grandes mégapoles, comme New York ou Paris. Pour les Rastafari, elle représente toute la cupidité du monde occidental et de ses empires destructeurs. Fantasmée dans de nombreux livres, chantée, Babylone représente également au cinéma la démesure, archétype de la cité cosmopolite et tentatrice, corrompue et corruptrice, dont les références peuvent être trouvées dans Metropolis, ou bien Blade Runner, avec ses temples futuristes qui ne sont pas sans rappeler les ziggourats mésopotamiennes.
En tout cas, même si Babylone a disparu physiquement, elle n'est pas prête à quitter la mémoire de l'humanité.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens à remercier Maestro, de la série Il était une fois l'homme, qui m'a fait l'honneur de m'accompagner sur cet épisode.
Mais merci à toi, Question d'Histoire, d'avoir partagé avec moi la grande histoire de Babylone. J'espère que les spectateurs auront appris des choses.
Maestro, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. 40 ans déjà que la série Il était une fois l'homme a vu le jour, et vous n'avez pas pris une ride.
Merci à toi.
N'hésitez pas d'ailleurs, chers spectateurs, à découvrir ou revoir les séries en version restaurée, qui ont personnellement bercé mon enfance. Merci à vous et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et puis surtout à mettre un pouce vers le haut et à partager au maximum.
Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.
Vous pouvez toujours me soutenir sur Utip sans débourser un centime, et n'hésitez pas non plus à me soutenir sur Tipeee. Et d'ailleurs, j'en profite à nouveau pour remercier les tipeurs. Encore merci d'avoir visionné, et à bientôt pour un nouvel épisode.